Bon, en tout cas, bonjour à vous tous et vous toutes d'être présents et d'être avec nous cet après-midi. Il m'a été demandé d'apporter une réflexion sur le travail au quotidien. C'est un vaste domaine et je l'ai abordé à partir de la manière dont on vit cela intérieurement. Et donc, j'ai priorisé des réflexions de fond pour vous permettre de continuer ensuite chacun et chacune vos réflexions et puis de partager tout à l'heure dans les petits groupes de partage de type Zaché qui auront lieu en fin d'après-midi. Alors le travail au quotidien, c'est le travail qui est au cœur de notre journée, pour chacun, pour chacune. Quel prix nous lui accordons? Quelle place nous lui donnons dans notre vie? Comment cela nous met en relation avec des personnes? Comment découvrons-nous ces personnes? Régulièrement ou épisodiquement? Le travail quotidien nous concerne tous. J'ai fait un éventail très large pour que vous ayez en tête, quand je vais parler ensuite du travail quotidien, de quoi il s'agit. Mais le travail quotidien, c'est le travail manuel, intellectuel, le travail en atelier ou dans des bureaux. C'est aussi le travail à travers des réseaux, par Internet. Je pense au télétravail, par exemple, où on ne se voit pas obligatoirement face à face, mais on est en lien et on travaille ensemble. Ce travail, il nous concerne quel que soit notre statut. Salarié, dirigeant, indépendant, profession libérale. Mais aussi, j'inclus là, le travail que font des personnes qui sont en recherche d'emploi. Personnes qui sont sans emploi, en recherche d'emploi, c'est un réel travail que de rechercher un emploi. J'étais ces deux jours à la place de la Concorde, on a accueilli beaucoup de personnes en recherche d'emploi, et c'est le mot de tout le monde. Aujourd'hui, la recherche d'emploi est un travail à temps plein. Et ça nous met en relation avec des personnes, les administrations, les recruteurs, les agences d'intérim, les personnes qui vous font passer des entretiens. C'est un réel travail où chacun apprend à exister. Je dis bien apprend, ce n'est pas acquis. Mais cette activité quotidienne, parmi ce travail, j'inclus également le travail de personnes qui ne sont peut-être pas salariées, donc qui ne sont peut-être pas payées, mais qui consacrent beaucoup de temps de cette journée à ce travail. Je pense à des personnes qui ont en charge des personnes âgées, des parents âgés, ou qui accompagnent des personnes handicapées et qui passent des heures et des heures chaque jour. Cela devient un travail, c'est un travail quotidien. J'inclus aussi, même si on ne sait pas toujours les qualifier, mais des gardiennes d'immeubles. J'ai vu des gardiennes d'immeubles dans leurs relations avec des habitants de l'immeuble, elles font leur travail normal, bien évidemment, mais l'attention aux personnes, notamment quand il y a des personnes âgées, j'ai vu des gardiennes qui leur ramenaient leur courrier, mais en même temps qui leur ramenaient des courses pour pouvoir manger, et qui sont attentifs chaque jour à ce que la personne ne manque de rien pour pouvoir se nourrir. Ça fait partie pour moi du travail quotidien. Donc vous voyez, c'est plus large que ce qu'on pourrait entendre comme un travail, c'est beaucoup plus large. Moi, je préfère dire activité humaine au quotidien qui prend la personne dans des réseaux, dans des relations, dans des responsabilités, mais aussi des situations plus difficiles. Alors, j'aurais voulu souligner deux aspects, puis un troisième qui sera en conclusion. Le travail quotidien comme lieu de la rencontre de Dieu avec chacun. Pour contempler et offrir au Seigneur le travail quotidien, laissons-nous guider par l'évangélique Luc, qui nous rapporte les premiers jours à Nazareth, de Marie, Jésus, un peu Joseph. Marie, elle a vécu pleinement chaque instant, et j'insisterai souvent là-dessus, vivre pleinement l'instant dans lequel on vit un travail. Elle a vécu pleinement la naissance de son enfant, la rencontre avec les bergers, les mages, Siméon, la prophétesse Anne. Luc nous dit, Marie conservait en elle toutes ces choses. Toutes ces choses, c'est large. Tout ce qu'elle avait entendu, vu, reçu des personnes. Elle les méditait en son cœur. C'est Luc 2, 10, 19 et 51. Et quand Luc nous dit que Marie méditait en son cœur, c'est le lieu de la rencontre quotidienne de Marie avec son Dieu. C'est aussi un lieu porteur de souffle de vie pour Marie. Jésus, enfant, a vécu chaque instant comme des enfants de son époque. Il a contemplé le travail de sa mère, quand elle travaillait auprès d'elle. Il a travaillé avec son père, charpentier. Il a découvert le travail dans l'atelier de son père. Il a joué avec les enfants. Il a appris les Écritures comme tous les jeunes juifs de cette époque, et encore maintenant. Luc nous parle de la circoncision, de la présentation au temple, de la fête de Pâques à Jérusalem. Et Luc nous dit, Jésus a pris du temps pour être avec son Père. Et Luc nous précise, ce qui me semble important, l'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était avec lui. Luc 2, 40. Et il ajoute, Luc, Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La vie de Jésus, notre vie aujourd'hui, est une vie avec Dieu et avec les hommes. Elle n'est pas séparée des hommes. Alors, accueillir, contempler Dieu au cœur de son travail, cela participe à la vie de tout enfant de Dieu. Et cela le fait croître en sagesse. Donc, de quoi va-t-il être question cet après-midi? Dans l'accueil, la contemplation, la louange à certains moments, du travail au quotidien, c'est de grandir dans la sagesse, sagesse qui nous est donnée par Dieu, qui s'installe en nous. Les Écritures nous ont montré que rien dans le travail de l'homme n'est étranger à Dieu. Ou je vais dire autrement, pour Dieu, tout est important dans le travail de l'homme, dans l'activité de l'homme. Je vous rappelle Isaïe 43 qui dit que l'homme a du prix aux yeux de Dieu et il a du prix dans tout ce qu'il fait, dans tout son agir quotidien. Et Jésus dit, le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez, parce que vous me suivez. Chacun et chacune est doté de compétences, de savoir-faire et de savoir-être, qui sont tous œuvres de la création de Dieu en chacun. Il nous revient à nous de les faire vivre, de les développer dans notre quotidien, car Dieu a besoin de tout cela. Il a besoin de chacun d'entre nous, chacun dans ses activités, là où il est. Rappelons-nous Marie à Cana. Marie était toute, moi je dis, présence à son fils. Elle observait ce que faisait Jésus. Elle a rencontré des serviteurs en leur disant, faites tout ce qu'il vous dira. Elle était toute présence. Et ça a permis beaucoup de choses. Je dis ça parce que souvent quand on aborde le travail avec les personnes dans la vie quotidienne, les personnes disent, mais nous on peut rien. On n'a pas de moyens. On peut pas agir. Rien ne peut sortir de nous. Quand on regarde Marie à Cana, on sait que c'est totalement faux. Et puis, je rappelle aussi la visite de Jésus à Marthe et à Marie. Vous avez en tête, c'est dans Luc 10, 38, 41, Jésus décrit les caractéristiques de chacune. Marthe, très affairée, puis Jésus ne va pas dire qu'il ne fallait pas préparer le repas, parce qu'il le sait quand même. Et puis Marie qui se situait autrement. Mais Jésus les invite à retrouver l'essentiel, Dieu dans leur activité quotidienne. Donc je reviens sur ma question. Quel prix accordons-nous à chaque temps de notre activité quotidienne? Je voulais m'appuyer également à ce stade sur Paul. Paul rappelle que nous sommes le corps du Christ, chacun pour notre part. Donc chacun où nous sommes, où nous vivons. Nous sommes membres de ce corps du Christ. C'est 1 Corinthiens 12, 27. Dans notre travail quotidien, nos comportements, nos manières d'agir, nos manières d'être, nos manières de nous engager ou de ne pas nous engager, nos manières de faire ou de ne pas faire, sont-ils au service de la dignité de chaque personne? Nous font-ils vivre encore plus comme membres du corps du Christ? Tous les membres du corps du Christ sont appelés à la même dignité pour que ce corps puisse vivre et se développer. Dans notre manière d'être, comment sommes-nous, nous, au service d'une recherche d'une plus grande dignité de l'homme pour que le corps du Christ croisse? Dans l'ordonnancement de notre vie quotidienne, dans nos rencontres avec les autres, notre corps dit quelque chose de ce Dieu qui n'aspire qu'à une seule chose, vivre avec l'homme, avec chacun de nous dans nos réalités concrètes. Un sourire, une poignée de main, du temps que l'on prend pour discuter, travailler avec un collaborateur, avec un responsable. Le ton qu'on emploie dans notre discussion, l'écoute de l'autre, jusqu'à entendre ce qui n'est pas toujours exprimé, ce qui parfois est inaudible, inexprimable tel quel, mais qui dit quelque chose aux profondeurs de ce que vit l'autre, de ce qu'est l'autre, qui est comme nous, membre du corps du Christ. Entendre, regarder avec les yeux, les oreilles, le cœur de Dieu, pour y retrouver, dans ce qu'expriment les autres, dans ce qu'on échange ensemble, ce que Dieu a placé en chacun et que Dieu nous demande de faire fructifier et de développer. Donc notre travail est en effet ce lieu où chacun est invité à exercer toutes ses capacités, à mettre en œuvre ses moyens propres, là où il est, tel qu'il est. Les moyens de son travail. Pas question d'aller chercher des choses extraordinaires. C'est dans la réalité concrète et simple de notre vie. Mais aussi, il est invité à prendre au sérieux ce qui s'y vit à chaque instant et à y accorder du prix. Pourquoi ? D'abord, nous y vivons notre responsabilité humaine. Et on a bien l'enjeu, et bien pour nous, de soutenir le développement de chaque être humain. Nous d'abord, et tous ceux avec lesquels nous vivons, tous ceux que nous rencontrons, que nous croisons, dans le cadre de notre activité familiale, pardon, notre activité de travail. Je pensais à la famille parce que je pense à une jeune mère qui n'a pas encore repris son activité au travail et puis qui tous les jours croise la concierge et puis elle croise une dame qui est âgée. Elle la connaît peu, mais elle trouve toujours le moyen de lui dire quelque chose qui est vrai. Et 6 mois après, elle croise cette dame et cette dame lui dit « Ah, je vous reconnais parce que vous m'avez dit ça l'autre jour et ça m'a permis d'affronter une difficulté. » Donc c'est souvent dans cette humilité, ces effets simples, concrets, sans grands moyens, qu'on entre dans une réalité de vie avec les personnes et on permet aux personnes de faire croître leur humanité. Nous regardons nos pratiques de pouvoir, nos usages de l'argent, notre capacité de travailler avec d'autres, surtout différents de nous, et quand on ne les comprend pas. Et là, nous regardons comment nous pouvons construire ensemble, parce que nous sommes frères en humanité. Mais nous apprenons aussi à analyser et à discerner au cœur des événements pour exercer notre capacité de critique sur le travail au quotidien. Et c'est là qu'au fur et à mesure, nous allons apprendre à ajuster ce qui est bon pour l'homme, pour chacun d'entre nous, au désir de Dieu pour l'homme debout, dans le sens d'Irénée, un homme en pleine gloire. Comme la Vierge Marie, nous vivons ces situations, nous les méditons avec notre cœur. Pourquoi est-ce important de les méditer avec notre cœur ? Et peut-être d'autres choses, on va voir. Mais d'abord pour découvrir ce qui est le plus important pour chacun. On peut souvent se faire des illusions, des rêves sur ce qui est important pour chacun, sur ce qu'il doit faire ou ne pas faire. L'important, c'est de contempler, d'accueillir dans l'expression de chacun ce qui est important pour lui. Et c'est aussi important de regarder pour nous ce que nous avons laissé dans la journée, ce à quoi nous n'avons pas accordé beaucoup d'importance, on n'a pas été vraiment présent. C'est le travail, mais le travail est difficile, et puis on n'attendait plus qu'une seule chose, c'est de pouvoir quitter le travail pour retrouver la maison et être au calme, être dans le repos. Et c'est pour ça que je dis, qu'est-ce que nous avons accueilli de chaque instant de ce travail ? Ne passons pas trop vite à côté, parce que même s'il est dur, même s'il est amputant de certaines de nos compétences, il permet quand même de développer d'autres compétences auxquelles on ne pense pas. Je suis en parlant avec des personnes qui me disent oh, « c'est fini, la journée de travail est finie, je n'en parle plus, c'est terminé, maintenant je vais faire ce que j'aime ». Alors j'aime faire ça. Et oui, c'est important que la personne aime faire quelque chose et qu'elle le dise. La première responsabilité de tout homme, c'est d'être présent à ce qu'il vit, quand bien même ce n'est pas la perfection. J'ai la première responsabilité de tout homme parce que, j'aime bien dire, c'est la vocation de tout homme, de pouvoir être pleinement homme, pleinement femme, pleinement ce qu'il est dans son activité humaine. Relire ce qui s'est passé dans ses activités quotidiennes, dans le travail, cela contribue à faire grandir l'être humain. Mais ça peut aussi l'empêcher de grandir. Et à certains moments, on peut avoir des réactions, on peut avoir des attitudes, des manières de faire qui font que, au lieu de faciliter la croissance, on va l'empêcher. Et là derrière, il y a le péché hein, qui nous taraude, hein, qui est présent. Hein, il n'est pas étranger. Hein. Et puis, je dis souvent qu'il faut regarder les tensions que nous vivons. On a toujours tendance à les mettre aussi de côté, à ne pas en parler. Or, les tensions, elles nous disent quelque chose de nous. Elles disent quelque chose qu'elles on tient puis qu'on n'arrive pas à vivre. Elles disent quelque chose qu'un chef de service, par exemple, nous demande de faire et qu'on n'arrive pas à faire ou qu'on n'aime pas faire ou on pense que c'est contraire à nos opinions de le faire. Oui. Et donc, comment mettre ces tensions à nu ? D'abord, je dis comment les contempler, les accueillir. Accueillir là-dedans ce qui nous parle, ce qui nous choque, ce qui nous bloque. Parce que c'est dire quelque chose du travail du Seigneur en nous. Le Seigneur n'est pas extérieur, d'abord en nous, dans ce qu'il construit en nous. L'Esprit du Seigneur est au cœur de ces réalités et il nous appelle à l'y rejoindre. Je dis souvent, le Seigneur travaille déjà au cœur, dans notre cœur, au cœur des personnes. Et ce qu'il nous demande, c'est d'être là, d'être présent, pas fuir, et de le rejoindre. Je repense à Marie, qui a accueilli le Seigneur. Je pense à l'Annonciation. Je pense à la visitation, quand elle va visiter Élisabeth. Marie a accueilli le Seigneur, ce qui veut dire cette habitude de méditation qu'elle devait avoir, et d'écouter sa vie, d'écouter ce que le Seigneur disait dans sa vie. Et elle a pu dire oui, alors que ça semble complètement fou. Je rappellerai ce que dit aussi le pape, ce que disait pape François, dans Laudate numéro 80. Cependant, Dieu qui veut agir avec nous et compte sur notre coopération est aussi capable de tirer quelque chose de bon du mal que nous commettons. Parce que l'Esprit Saint possède une imagination infinie, propre à l'Esprit divin, qui sait prévoir et résoudre les problèmes des affaires humaines, même les plus complexes et les plus impénétrables. J'aime reprendre ça parce que dans ce que nous faisons, dans nos manières d'être, il y a des moments où on rate. On ne fait pas que du bien. On échoue. Il y a des échecs. C'est important de savoir que l'Esprit de Dieu nous accompagne dans tout ça. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a eu un échec, une difficulté, on n'a pas su avoir une bonne relation avec un collaborateur, un professeur était tellement fatigué qu'avec ses élèves, il a baissé les bras, ou une grand-mère qui garde ses enfants tous les mercredis, c'est un travail, hein. Les enfants étaient tellement durs ce jour-là qu'elle s'est fâchée et qu'elle a conscience qu'elle a peut-être été au-delà de certaines limites. Dieu est au cœur de tout cela, il accueille tout ça, et tout cela a de l'importance pour lui. Alors pourquoi nous on n'y accorderait pas d'importance. Parce que le mystère là, c'est d'abord c'est important qu'on prenne conscience à certains moments de nos manques, de nos loupés, comme de nos joies. Mais ce qui était essentiel, c'est que l'Esprit en fera quelque chose. Peut-être qu'on ne le verra pas, peut-être que d'autres le verront, peut-être qu'on le verra plus tard. Alors j'avais envie de vous dire l'urgence aujourd'hui pour nous. Prendre du recul par rapport à l'agitation, aux encombrements de tous ordres de la vie quotidienne. Des encombrements que l'on reçoit, mais des encombrements que l'on subit. J'ai quelques exemples. Je pense au téléphone portable. Plus je circule et plus je suis dans le métro, plus je regarde les personnes. Et trois quarts des personnes tapotent avec leur téléphone portable. Ils ont les écouteurs. On encombre beaucoup notre vie. Hein. C'est aussi Internet. Ce sont les réseaux sociaux. C'est notre société qui est menée par des médias où tout ce qui pilote, c'est l'apparence, c'est l'événement, c'est la catastrophe. On ne parle pas de ce qui va bien. Ces deux jours, il y a eu Place de la Concorde, je vous disais, des millions de personnes qui sont passées, des gens qui se sont mis à leur disposition pour les aider à trouver un emploi. J'ai vu des échanges sur les stands assez extraordinaires, des gens qui s'aidaient entre eux pour trouver les bons stands. Tout ça, ça marche. Tout ça, ça se vit. Mais ça n'a certainement pas fait la une hier soir et jeudi soir à la télévision. Donc c'est un encombrement. Et c'est un encombrement qui, à certains moments, ne nous permet même plus d'être attentif à ce qui se vit et à ce que l'homme essaie de faire. Comme je le disais, petitement, comme Marie à Cana. Cette agitation quotidienne, elle vient aussi de l'international. Elle vient aussi des autres pays, parce que aujourd'hui, qu'un attentat ait lieu à Paris, ou qu'il ait lieu à Madrid, à Barcelone, ou qu'il ait lieu à Londres, tout arrive et tout est là. Alors moi, je disais, prendre du recul, mais faire silence. Je crois que c'est une gageure dans notre société, que faire silence, prendre le temps à un moment donné de ne rien écouter, de ne pas avoir de radio, de ne pas avoir de téléphone. C'est dur hein, d'éteindre son téléphone. Moi, je l'ai expérimenté encore cet été. Pas facile de dire aujourd'hui, je ne me brancherai pas pour écouter les messages que j'ai, les emails. C'est dur. Mais faire silence, hein, c'est la première chose. Pour que l'homme réhabite à vivre avec lui et à tout ce qu'il a reçu dans les minutes et les heures qui ont précédé. Autre chose, je dirais, croire que le Créateur est toujours en action et le chercher. J'aime dire ça, croire que le Créateur est toujours en action. Dans notre société, où les technologies sont tellement fortes, pilotent tellement nos vies, tout, je crois qu'on en oublie que le Créateur, il est en action. Il est en action en chacun, toutes les minutes, toutes les secondes. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a cette foi qu'il est là? Et donc faire silence pour l'accueillir. Et puis, moi j'ai se laisser renaître par l'esprit de Jésus, par le Dieu créateur. Il a envie de nous recréer, de nous faire renaître tous les jours, dans ce qu'on vit, dans toute relation. Est-ce que on accepte de se laisser renaître par l'autre? Et par l'autre, c'est l'esprit de Dieu qui nous travaille. Deuxième aspect que je voulais aborder, c'est le travail au quotidien, lieu d'alliance de Dieu avec son peuple. Contempler et offrir Dieu, à Dieu notre travail, c'est aussi accueillir la vie que nous partageons avec d'autres. Des collègues, des supérieurs, des collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les élèves, les malades en milieu hospitalier. Les élèves et les étudiants pour les professeurs, les enfants ou les petits-enfants qui nous sont confiés, mais aussi les personnes âgées avec lesquelles nous passons beaucoup de temps, les habitants de notre immeuble, je pense aux gardiennes, dont le travail est complètement dédié au bien-être des habitants de leur immeuble. On a vu Jésus et Marie à Nazareth, et nous-mêmes dans notre travail quotidien. Qu'est-ce que nous découvrons de l'autre? J'ai souvent eu des échanges avec des responsables de service qui me disent oh, je sais ce qu'il leur faut. Je dis, oui, mais ce que vous leur avez demandé. Récemment, j'ai une personne tu me vois. Il était très embêté parce qu'il croyait bien faire en confiant à une de ses collaboratrices un travail. Ça avait du sens dans son organisation. Ça avait du sens parce qu'il lui donnait l'opportunité de prendre un travail plus important et puis de grandir, de croître, d'avoir des responsabilités. Donc pour lui, ça avait un sens énorme. Seul que le gros problème était là, c'est qu'elle ne le pouvait pas. Elle n'avait pas les compétences. Et elle ne pouvait pas. Et donc, au bout de 6 mois, c'était l'échec. Et c'est un échec qui a atteint le responsable et qui a atteint la personne. Mais est-ce qu'on sait ce que ressent l'autre? Est-ce qu'on sait ce que veut l'autre? Est-ce qu'on sait comment travaille l'autre? Et est-ce que on se laisse étonner par l'autre? On a quand même des attitudes, hein, où on sait. On sait. Est-ce qu'on va être étonné par ce que fait l'autre? Est-ce qu'il va nous surprendre? Mais pour qu'il nous surprenne, il faut qu'on soit avide de découvrir qu'il va nous surprendre. Est-ce qu'il nous étonne? Est-ce qu'il nous choque? Et donc, ça veut dire quelle relation on va être avec l'autre. Parce que s'il nous choque, comment on va pouvoir dialoguer? Comment on va pouvoir s'exprimer? Comment on va pouvoir, nous, exister et l'autre exister? Dans ce travail quotidien, on y est ensemble, en vue de produire. J'ai mis d'obtenir, parce que je pensais aux demandeurs d'emploi. Et puis, quand ils vont à Pôle emploi, quand ils vont à l'APEC, quand ils vont auprès de telle association pour être aidés à trouver un emploi, eux, ce qu'ils veulent, c'est obtenir, c'est avoir. Et la personne en face n'a pas obligatoirement. Mais c'est déjà important d'écouter ce que l'autre veut obtenir. Et c'est important de pouvoir dire ce que l'on peut faire. Là-dedans, quand je parle du travail, je dirais plus collectif, où on est ensemble, l'important est que chacun y ait sa place. Sa place. Que chacun y soit reconnu. Reconnu pour lui. Pour ce qu'il sait faire. Pour ce qu'il aime faire. C'est pour moi quelque chose de très important. Parce que s'il est reconnu, ça veut dire qu'il pourra grandir. Et ça veut dire qu'il pourra avoir sa place dans la société. Avec le travail, il participe à la croissance de son service, de son département, de sa société, de sa commune, s'il travaille à la mairie, de l'école, s'il travaille dans l'école. Mais les dons de chacun fait que s'il peut avoir sa place, exercer son métier, exercer ses responsabilités, exercer aussi ses dons, ses savoir-faire et ses savoir-être, il va permettre à lui de croître, mais aux autres aussi de croître. Et là, moi, j'ai dit, c'est la société qui va croître et qui va grandir. Mais encore faut-il qu'on accepte que chacun, dans sa position, dans son rôle, une standardiste a une responsabilité, un chef d'entreprise a une responsabilité, en tant qu'être humain, ils ont chacun des responsabilités. Moi, j'ai dit, à égalité humainement, de fait de leur capacité humaine, parce qu'ils sont hommes, femmes, des êtres humains, frères en Jésus-Christ. Et puis professionnellement, chacun a sa responsabilité, sa particularité. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que je vous ai parlé de Jésus enfant à Nazareth. Mais lorsque nous regardons Jésus adulte est allé rencontrer les hommes, d'abord là où ils vivent, là où ils travaillent, les pêcheurs sur le lac, à Tibériade. Et je pense au Samaritain. Le Samaritain, il a regardé cet homme qui était blessé, presque mourant, on nous dit, au bord du chemin. Et lui, le Samaritain, s'est arrêté. On dit qu'il a eu une profonde pitié. Il n'a pas simplement eu un avis technique. Mince, il est en train de mourir, il faut appeler tel. Il s'est laissé atteindre, d'abord, par la souffrance de l'autre. Par le mal que vivait l'autre, le mal dont l'autre avait été victime, se laisser atteindre. Comment nous nous laissons atteindre par ce que vit l'autre et par cet autre qui est notre frère en Jésus-Christ, donc qui souffre, et Dieu souffre avec lui. Il s'est arrêté, l'évangile dit, il l'a regardé. Pensons à tous ces textes évangiles où Jésus regardait, il a regardé Nicodème, il a regardé Philippe, il les a regardés. Et tout de suite, ils ont été reconnus, ils ont pris leur place. Ils ont cherché. Donc le Samaritain a regardé, Et puis il a pris soin de l'homme. Ben, pour qu'il soit soigné, nourri, hébergé, il l'a confié à un aubergiste. Donc il lui a fourni le logement, je pense à tous les sans-logements, et il lui a confié les soins. Parce que des personnes qui ne vont pas plus se faire soigner parce qu'ils ne sont pas remboursés de je ne sais pas quoi. Et puis il a confié à un aubergiste, il a donné de l'argent à l'aubergiste et il a dit « Mais si tu dépenses trop, quand je reviendrai, je te donnerai. » Ce qui veut dire qu'il a fait confiance à l'aubergiste. C'est très fort. Mais en disant à l'aubergiste que s'il fallait, il le soutiendrait encore après s'il avait trop dépensé. Il y a là pour moi le signe de l'attitude de Dieu qui prend soin de chaque homme, de nous. C'est important de se dire de nous aussi, comme il l'a fait pour son fils qui sera blessé, crucifié. Cela nous renvoie sans cesse aux attitudes de Jésus à l'égard des personnes blessées et rencontrées sur son chemin. Donc, quand on voit comment Jésus agit, pourquoi nous, on ne prend pas ce temps? Mais certains le prennent, c'est sûr. Mais comment sommes-nous invités à vraiment prendre ce temps de nous laisser étonner par l'autre, d'entendre l'autre? Et puis l'idée de communier à la souffrance de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on aura toutes les solutions. Mais le premier geste humain de frères et sœurs en humanité, c'est de se laisser toucher et atteindre. Donc je pensais, bien sûr, vous l'avez deviné, tous ce que j'appelle dans notre société les sans-logement, les sans-papiers, les sans-travail, les sans-amis, ceux qui sont dans des endroits où ils n'ont plus d'amis, n'ont plus de relations. Cet appel à prendre soin des blessures de l'autre, des nôtres, dans tout travail humain, c'est une invitation pressante pour nous. Et c'est une invitation pressante. Après, quand je dis ça, c'est pas simplement dans un agir. C'est une invitation pressante à laisser le Seigneur habiter notre réflexion et notre être. À laisser le Seigneur habiter notre regard. Regarder avec le regard de Dieu. Et ça nous décoiffe, hein. Parce qu'il va pas voir ce que nous voyons. Il va surtout voir ce que nous, on prend pas le soin de regarder. Regarder avec le cœur de Dieu. Moi, je dis que le Dieu aime l'homme. Tous les textes disent. Il aime l'homme avec un cœur énorme. Et cet amour pour l'homme, qu'on peut même pas imaginer tellement énorme, qu'il le donne à tous les hommes. Et nous, comment laissons-nous notre cœur ouvrir pour qu'il donne quelque chose à tous les hommes? Et là, c'est Dieu qui y travaillera. Et comment nous situons-nous, travaillons-nous pour que chacun, dans son travail, soit reconnu pour ce qu'il fait? Si une personne n'est pas reconnue, elle n'existe pas. J'ai souvent été marquée en usine par des hommes qui, quand un de mes patrons les rencontrait, ils me disaient « Ah, il nous a parlé en face, on a compris. Il a reconnu notre travail. Il a reconnu que la machine, que je disais qu'était en panne, était en panne, et il va faire quelque chose. Il m'a reconnu. » Donc la puissance du regard de Jésus, mais la puissance aussi de notre regard, pour que l'autre puisse exister dans ce qu'il vit. Et puis pour qu'il puisse produire, au sens large du terme, faire, agir, être. Et c'est ce qui permettra à la société de croître. Je reprends un passage du livre de la Sagesse qui dit « Mais parce que vous, c'est Dieu, vous pouvez tout, vous avez pitié de tout. » Et vous fermez les yeux sur les péchés des hommes pour qu'ils se repentent. Car vous aimez toutes ces créatures. Vous ne haïssez rien de ce que vous avez fait. Donc, y compris quand l'homme s'est détourné de Dieu, ou lui a tourné le dos, et s'il revient vers Dieu en reconnaissant qu'il a détourné, Dieu ne se détourne pas. Si vous aviez haï une chose, vous ne l'auriez pas faite. Et comment un être subsisterait-il si vous ne le vouliez pas? Se conserverait-il si vous ne l'aviez pas appelé à l'existence? Mais vous pardonnez à tous parce que vous êtes tout à tous. Vous êtes le Seigneur, ami de la vie. Et nous, dans ce travail quotidien, comment sommes-nous amis de la vie, d'une vie qui nous est donnée? Le pape François nous dit d'aller aux périphéries, c'est très cher à lui, Et cela se révèle dans des réalités très diverses, où que nous soyons. Ce n'est pas la même chose en Europe, en France, au fin fond de la Creuse, à Paris, à Lyon, mais aussi au Cameroun, mais aussi au Canada. Les réalités sont diverses, mais ces périphéries, elles peuvent être géographiques. Elles sont aussi souvent psychologiques. Elles sont aussi culturelles, dans différentes dimensions qui touchent l'homme. Pour rejoindre l'homme dans les réalités actuelles, dans les nouvelles formes de s'engager, de vivre, de répartir sa vie entre les tâches professionnelles et la vie familiale, l'éducation des enfants, les chemins de réussite, la relation entre les générations, les relations dans les couples. C'est là que l'Esprit du Christ travaille et a besoin de chacun de nous. Alors, quelles urgences aujourd'hui ? Moi, je dirais d'abord remettre l'homme dans toute son humanité. C'est-à-dire ne pas enfermer l'homme dans des étiquettes, que ce soit une étiquette professionnelle, une étiquette dans une association, une étiquette syndicale, politique ou autre. Mais situer l'homme dans toute son humanité, au cœur du travail quotidien, rejoindre des qualités que peut-être il ne développe pas ou on ne laisse pas développer, alors que c'est les qualités, si on les laissait développer, ça pourrait lui permettre de faire son travail plus vite, plus grandement, plus loin. En tout cas, l'ensemble en bénéficierait. Deuxième urgence, apprendre la bienveillance pour chaque être humain. Apprendre à approfondir la miséricorde de Dieu pour chaque être humain, surtout pour celui qui est différent. Découvrir l'œuvre de Dieu dans chaque personne, pour ne pas limiter son regard à ce qu'on croit savoir, à son agir quotidien, à ses qualités professionnelles ou techniques. Autre urgence, comprendre que chacun vit plusieurs dimensions en même temps. Une dimension personnelle, familiale, mais aussi institutionnelle, parce que chacun est au travail, est membre d'une société, a une fonction, a un rôle et il défend la pérennité de son emploi. Mais aussi, il a un rôle, par exemple, de représentant du personnel. Donc, quand il est représentant du personnel et qu'il parle à son chef de service, eh bien, il est homme et il est celui qui veut garder son travail, il est celui qui veut faire avancer le travail. Et puis, il est aussi celui qui, comme représentant du personnel, dit des choses au nom de l'ensemble du personnel. Donc apprendre à regarder chacun, moi je dis pas comme des rondelles de saucisson, pas comme des petits morceaux, mais comme un tout. Et dans ce tout, chacun a des dimensions diverses. Et dans ces dimensions diverses, eh bien il s'enrichit et il enrichit les autres. Et puis, invoquer le soutien de Marie pour comprendre les appels de son fils aujourd'hui. Elle a su être présente à ses côtés à Cana. Elle a été présente à ses côtés au pied de la croix. Priez Marie pour qu'elle nous apprenne vraiment au quotidien à découvrir quels sont les appels de son fils aujourd'hui. Et en conclusion, je voudrais apporter un autre aspect. Il est présent dans ce que j'ai dit. Le travail quotidien, contemplé, offert au Seigneur, nous ouvre le sens de cette vie partagée avec d'autres. Le sens, c'est l'origine. C'est Dieu. Et c'est la direction et vers où nous allons. Une société plus fraternelle. Quand Jésus visite des personnes, moi je pense à Zachée. Zachée rencontre Jésus, Jésus s'invite chez lui le jour même. L'évangile ne nous dit pas ce qui s'est passé entre eux. Mais ce qu'il nous dit, c'est que le jour même, Zachée annonce qu'il va rendre à ceux qu'il a volés tout ce qu'il leur a pris. Il est évident que ce jour-là, Zachée, il est revenu dans une dimension de frère au milieu de la communauté humaine. Jésus n'a pas simplement participé à une justice pour que ceux qui ont été volés retrouvent de l'argent. Mais Zachée redevient un frère parmi les autres avec ses concitoyens. Et dans de nombreuses situations, Jésus, quand il rétablit l'homme dans toute son humanité. Et son humanité, c'est d'abord être frère des autres. Et le message de Jésus, c'est une nouvelle fraternité qui nous apprend à vivre et qui nous appelle à vivre dans le quotidien. Alors ce travail quotidien, d'abord, il révèle la création en continu de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert au cours des années et qui maintenant s'est imposé. On a, nous, en tout cas, nous, Français, je travaille avec des étrangers, on a un esprit très rationnel, très carré. Il y avait la création. Bon. Mais on a du mal à dire au quotidien que la création, elle continue. La création, elle ne s'est pas arrêtée un moment. Elle continue. Et Dieu continue à créer avec chaque homme aujourd'hui. Vous, vos voisins, vos amis, votre voisin de palier, tout le monde. Jésus, Dieu, continue à créer. Et ça, c'est pour une question de foi fondamentale. Parce que si on entre dans cette dimension, on va, nous, avec la spiritualité initiale, trouver Dieu en toute chose. Trouver que Dieu agit en toute chose, en tout événement, en toute circonstance, en tout moment. Dieu agit. Il est là. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas. On ne l'entend pas. On ne sait pas l'entendre. On ne sait pas l'écouter. Tout ce que je disais, prenons silence. Prenons du recul. Dieu continue à créer, et quand je dis ça pour des hommes, il faut que vous entendiez que je le dis aussi pour des peuples. C'est-à-dire que Dieu crée, continue à nous créer, nous, personnes, ici, dans nos cités. Mais il continue aussi à créer des groupes d'hommes, des paysans à la campagne, des personnes qui travaillent sur la mer. Des personnes qui travaillent au service des soins des personnes, tout le milieu hospitalier. Il y a des cultures, c'est mieux. Dieu continue à créer, mais il continue à créer les peuples et il continue à créer les pays, les continents. D'où l'importance que là où nous sommes, on y soit vraiment, avec tout ce que je viens de dire, présent avec cet esprit de Dieu qui ne demande qu'une seule chose, c'est de l'y rejoindre. Parce qu'il crée. Et pour ça, il a besoin de chacun de nous. Et il a besoin de personnes qui ont envie de créer, de personnes qui vont sortir des jugements et des a priori, de personnes qui vont se laisser étonner par l'autre, se laisser rencontrer par l'autre. Je rappelle souvent que ce soit avec Abraham, dans Genèse 15, ou avec Moïse, Dieu a rencontré chacun. Et lui a dit comment il comptait sur lui. Moïse dit, moi je ne sais pas parler, hein. Je ne vais pas aller parler au Pharaon. Hein. Après, tu me demandes de partir, mais partir avec tous les miens. Et Dieu leur a dit, mais fais confiance, je suis là. Dieu crée avec. L'aujourd'hui de la création a une priorité pour moi, que chacun soit reconnu dans son travail, et donc en est. Cela lui va lui permettre d'exister socialement, de participer à plus d'humanité, à la croissance de la dignité humaine, à être plus ajusté. Moi, je n'utilise plus le mot justice. Je dis ajusté. On parle de la justice, on parle tout de suite, il y a des lois, il y a des règles, on va les appliquer. Elles sont importantes et elles règlent la vie de nos sociétés et elles permettent de nous situer. Elles permettent à chacun d'avoir des droits. Elles permettent à chacun de se faire respecter dans ce qu'il est. Mais on va un peu plus loin. En utilisant ces règles que nous avons, on a la responsabilité de regarder comment elles vont nous permettre en conscience d'être ajustées au désir de Dieu pour chaque homme et donc à la création aujourd'hui. Et puis, deuxième point que je voulais souligner, c'est que nous participons à la création du royaume en germe. Et donc on est au cœur d'un travail d'enfantement. Ça, c'est Romains 8 qui l'explique. Là où chacun de nous vit et est engagé, là où on vit des choses difficiles et heureuses, là où on est témoin de gestes de solidarité entre des personnes, je vois avec des chercheurs d'emploi, mais je vois aussi dans certains services. Là où on est témoin de ça, il y a quelque chose de l'Esprit du Christ qui bâtit, qui construit. Même si c'est tordu, même si ce n'est pas totalement parfait comme on le voudrait. Et ça, c'est en germe, le royaume qui est en train de commencer à exister. Il n'est pas fini. Le péché et le mal sont toujours là. Mais ce germe de royaume, il est toujours là. Et c'est ce royaume que Dieu nous fera découvrir dans sa plénitude quand nous serons auprès de lui, dans une plénitude de relations. Donc l'urgence pour nous aujourd'hui, c'est apprendre sans cesse à contempler, offrir au Seigneur cette vie, nos petits gestes, mais ça peut aussi être nos luttes, ça peut être aussi nos refus. Je pense à la difficulté du travail actuel, avec les nouvelles techniques, avec beaucoup de choses, qui font que des mots nouveaux apparaissent. Le stress. Des personnes qui sont surchargées de travail parce qu'ils ne peuvent pas discuter les horaires impossibles qu'on leur impose. Je pense à des couples qui travaillent dans la même administration. L'un est nommé à Paris, l'autre est nommé à Marseille. Ah, ils n'ont pas pu dire non. Donc ils se retrouvent qu'une fois par semaine. Puis il y a les enfants, il y a tout. Mais au cœur de ça, les efforts de chacun, les tentatives de chacun, les manières de le vivre, permettent au Seigneur de créer quelque chose, et puis à nous de créer quelque chose. Donc, mais pour en être conscient, il faut apprendre à le contempler. Et moi j'ajoute ce que je n'ai pas encore dit, il faut apprendre à le louer. Parce qu'on peut contempler en ne regardant que du négatif, ou que du difficile, ou que du impossible, on n'y arrivera jamais. On peut contempler en regardant les avancées, ce qui a été fait, ce qui a été possible. Un geste, une relation, une réunion qui s'est bien passée. C'est important d'aller jusqu'au bout, louer. Louer Dieu parce que dans cette vie, il y a des choses qui se sont bien passées. Il y a des découvertes qu'on a faites, il y a quelque chose qui a grandi chez l'homme. Louer, remercier Dieu, tout en restant bien évidemment lucide sur les endroits où nous sommes engagés, sur le monde où on vit, et on a encore des choses à changer, et à changer dans notre cœur, à changer dans nos comportements et notre manière d'être. Se donner un autre défi, c'est se donner des moyens de s'ajuster au désir de Dieu, au désir de Dieu Trinité, pour notre monde aujourd'hui. Et puis, dernière urgence que je soulignerai, c'est discerner. Discerner au cœur de nos réalités quotidiennes les appels de chacun. Les appels de Dieu, mais les appels de chacun, de chaque homme. Je dis discerner parce que souvent on constate, on engrange, mais on ne prend pas le temps de regarder là-dedans ce qui s'y passe. On ne prend pas le temps de regarder mais comment notre conviction et notre jugement doivent être bâtis. Est-ce qu'on doit soutenir telle chose ou pas? Est-ce qu'on doit dénoncer telle chose ou pas? Il y a des moments où on ne pourra pas être toujours d'accord avec tout, et souvent d'ailleurs. Et on aura à prendre position, on aura à être ce que j'appelle le rebrousse-poil. On apprendra à être la personne qui interroge. Je pense à une femme qui avait une très très courte activité professionnelle, elle est mariée, et puis son mari, pour lui faire partager sa vie professionnelle, invitait souvent à la maison des collègues. Et elle dit, mais à force de les entendre parler, je me disais, mais il n'y a pas une autre manière de faire, c'est pas croyable. Mais comment? Mais ils sont en train de se monter la tête, c'est pas possible. Et elle n'avait pas d'expérience récurrente, donc elle n'osait pas le dire. Et elle a pris l'habitude, à certains moments dans les repas, de dire, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre manière de faire? Mais vous êtes sûr que c'est toujours comme ça qu'il faut faire? Et puis elle m'a dit, au bout de quelques mois, son mari lui a dit, tu sais, mes collègues, ils m'ont dit, ta femme, elle nous a posé des questions, hein, on y pense. Donc, discerner, reconnaître ce qui se passe, reconnaître là-dedans ce qui, pour un bien de l'homme, ne peut pas, on ne peut pas y adhérer, on ne peut pas le laisser passer. Trouver en soi-même les moyens, mais trouver aussi avec les autres les moyens, parce qu'on n'est pas les seuls à disposer de ces moyens. C'est la chance, c'est la richesse quand on partage avec d'autres, quand on porte les responsabilités avec d'autres, quand on ne se croit pas seul à devoir tout porter, et quand on reconnaît que l'autre, il a des dons, il a des capacités, que lui, il va faire, et il fera peut-être mieux que nous, là où on est. Donc, dernière urgence, discerner. Discerner les appels de Dieu à chacun, au groupe de personnes, au monde, et cela passe par notre propre conversion. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long.